Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à votre émission Parole au présent, au microphone Claude Julien. Je suis en compagnie ce matin de Madame Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. En ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C, la liturgie propose les noces de Cana. Francine, peut-être avant que je fasse lecture, vous pourriez nous donner une ou deux clés de lecture, car on est vraiment dans un univers symbolique. Hein?
Absolument, on est dans l'Évangile de Jean. C'est sûr que le récit de Cana, Claude, tout le monde trouve ça sympathique. Hein? C'est rare qu'on voit Jésus à une fête. Le vin, c'est bien sympathique. Puis on a toujours envie de prendre ça au premier degré. Donc, vous avez raison de nous prévenir. Chez Jean, comme dans les autres évangiles, mais chez Jean particulièrement, on est dans le symbolique jusqu'au cou. Hein? Et j'aimerais proposer, oui, une clé de lecture pour que nos auditeurs puissent avoir une oreille, je dirais, orientée en vous écoutant le lire. Et la clé, je la prends au tout début du récit. Le lectionnaire a coupé la mention le troisième jour.
Ce qui arrive malheureusement trop souvent.
Ben, parfois, c'est logique. Hein? Disons que ça commence avec le lendemain. Comme on n'a pas le récit précédent, on ne sait pas le lendemain de quoi. Mais le troisième jour, ça tient tout seul au niveau de la signification, puisque ça renvoie les premiers chrétiens au jour de la résurrection. C'est une expression très familière, pensée au credo. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. On a ça dans Paul aux Corinthiens. Donc, ça renvoie à Pâques, dès le début. Si on n'avait rien que ça, on pourrait dire ça force un peu la lecture. Mais quand on voit à la finale du récit, deux éléments encore renvoient à Pâques. Ceci fut le commencement des signes. Le commencement des signes nous fait comme un clin d'œil vers ce que sera le grand signe le plus important. C'est celui de Pâques. Ce sera le dernier signe. Et il manifesta sa gloire, qui est aussi dans la finale de notre récit. Ça renvoie à la glorification de Jésus dans Jean. C'est toujours la mort-résurrection de Jésus. Pensez, Claude, au début du chapitre 17, que beaucoup de gens connaissent. Hein? L'heure est venue, Père, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. Voyez, glorifier, c'est aller à Pâques. Alors, si notre récit parle de manifester la gloire, d'accomplir les signes du troisième jour, c'est clair qu'on a là plein d'indices de l'auteur qui nous dit, je parle pas juste de ce qui se passe à Cana, j'en parle de manière à vous faire penser à la révélation du sens de la Pâque de Jésus. Et donc, ça concerne le lecteur. C'est pour le lecteur que Jean écrit comme ça.
Alors, j'en fais lecture maintenant. C'est au chapitre 2 de l'Évangile de Jean. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité à la noce avec ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs le savaient, eux, qui avaient puisé l'eau. Alors, il interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et quand les gens sont un peu ivres, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes de Jésus. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, Francine Robert, peut-être qu'on pourrait tout de suite préciser la question du miracle, puisque le mot n'est pas utilisé. On parle de miracle, mais le mot n'y est pas.
Vous avez raison. Nous, on parle de miracle, puis ça fait juste un miracle de plus. Hein? Jésus change de l'eau en vin. Mais chez Jean, jamais on trouve le mot équivalent à ce que nous traduisons miracle chez Matthieu, Marc et Luc. Chez Jean, ce mot-là n'y est jamais. C'est toujours le mot signe. Ce qui rejoint bien ce que vous disiez au début, Claude, lorsque Jean nous raconte ce que nous appelons un miracle et qu'il lui appelle un signe, il nous prévient, il ne s'agit pas de regarder le miracle comme tel, l'acte étonnant, mais ce que Jean essaie de nous signifier. Quand c'est un signe, ça désigne autre chose.
Signe visible aux yeux, mais qui exprime une réalité invisible.
Tout à fait. Dit comme ça, ça éclaire encore plus l'importance de ne pas lire au premier degré. C'est inutile de s'imaginer que pour que ce soit une lecture de foi, il faut que ce soit une lecture naïve. S'il y en a un des quatre qui cultive l'intelligence spirituelle, c'est bien Jean. Alors, il faut se demander qu'est-ce que Jean essaie de signifier pour nous.
Et il ouvre son récit en disant, vous l'avez dit au début, le troisième jour.
Voilà, donc on est prévenu, ce récit nous parle de Pâques alors qu'il se passe au tout début de la vie publique de Jésus. Il faut lire sur l'horizon théologique de la Pâque.
C'est ça.
Je lisais, en préparant cette émission, Claude, des commentaires sur le récit de Cana. Quelques commentaires font un lien avec le Sinaï pour le troisième jour. Vous savez, le don de la loi, Moïse, Dieu, les 10 commandements, après la sortie d'Égypte. Je trouvais très intéressant ce lien parce que ça introduit le thème de l'Alliance. C'est un thème essentiel pour le sens de la Pâque, mais en plus, c'est un thème souvent symbolisé par des noces. Or, on est dans un récit de noces.
Alors, c'est vraiment voulu. Là.
Et ce fameux troisième jour, donc, au Sinaï, c'est au chapitre 19 du livre de l'Exode. Dieu dit à Moïse que le peuple soit prêt pour le troisième jour, car c'est au troisième jour que le Seigneur descendra sur le mont Sinaï aux yeux de tout le peuple. Vous voyez, c'est le jour J, le troisième jour, hein? Le jour de la manifestation du Dieu qui nous propose d'entrer en alliance. Alors ici, avec Cana, c'est le troisième jour pour nous, la manifestation du Dieu qui fait alliance. Il est manifesté, ce Dieu, en Jésus, qui manifeste sa gloire.
Maintenant, si on regardait les personnages principaux, la première chose qui me frappe, c'est que le couple est absent.
Voilà, ça devrait être eux les personnages principaux. Finalement, ça va aller vite si on regarde ceux-là. Il y a le marié qui est mentionné très brièvement, par le maître de la noce et qui répond même pas d'ailleurs. Je reviens à la symbolique par contre du thème de l'alliance dont je disais qu'elle est souvent symbolisée par des noces. C'est intéressant, Claude, de voir que la première lecture que je trouve très bien choisie pour ce dimanche va chercher ce thème-là. C'est un extrait
du livre d'Isaïe au chapitre 62.
Et j'ai rassemblé les extraits. Vous pourriez nous les lire, s'il vous plaît.
Jérusalem, on ne t'appellera plus la délaissée, mais on te nommera ma préférée, mon épouse. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, celui qui t'a construite t'épousera. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu.
Isaïe ici évoque, on pourrait dire, la plénitude de la communion entre Dieu et son peuple. Il n'est pas le seul. Les gens qui ne connaissent pas le très beau deuxième chapitre du prophète Osée, je vous conseille vivement d'aller lire ça, c'est magnifique. On a d'autres passages qui, donc, prennent l'image des noces pour parler du thème de l'Alliance. Alors, Jean, notre auteur, nous invite, je pense, bien à lire le récit des noces sous cet angle-là. On pourrait traduire en mots d'aujourd'hui le mot « alliance », notre relation à Dieu.
Mariage entre Dieu et son peuple.
Oui.
Et cela a cheminé et on en est venu au mariage de Dieu avec l'humanité.
Que j'aime cette image. Ouais. Et ça va être vraiment la clé de lecture pour tout le récit.
Maintenant, le manque de vin.
Oui.
C'est intéressant.
Juste information de contexte, les noces étaient une grande fête, ça durait plusieurs jours. Le maître du repas, qui est habituellement le meilleur ami du marié, prévoit en conséquence, c'est pas normal, une noce où on manque de vin. Déjà, ça c'est une étrangeté dans le récit. Comme c'est pas normal, naturel, on peut se demander qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier pour nous, ce vin qui manque, En faisant raccourci vers la symbolique que je propose, on pourrait se demander qu'est-ce qui manque dans l'alliance entre l'humanité et Dieu, hein, pour qu'elle soit véritablement communion.
Ah oui, c'est bien ça. Et là, Marie intervient.
Un peu comme si c'était elle, la maîtresse du repas.
Voilà.
Hein.
Ben oui.
Elle semble veiller sur la noce. J'aime bien cette idée que Marie veille sur l'alliance, hein, personnellement.
Oui,
je trouve ça plutôt sympathique. Elle n'est pas nommée, je signale.
Dans l'évangile de Jean, le nom de Marie n'y est pas.
Effectivement.
C'est toujours la mère de Jésus.
Si nous n'avions que l'évangile de Jean, on ne saurait même pas le nom de la mère de Jésus.
Exactement.
Et Jésus, lui, l'appelle femme. On a exactement la même chose à la croix. Marie est active dans deux récits seulement, dans l'évangile de Jean.
C'est ça, soit le début et la fin. Finalement.
Voilà. Et donc, au commencement des signes et au dernier signe. Et dans les deux cas, donc, elle est désignée mère de Jésus, et dans les deux cas, Jésus l'appelle femme. C'est à la croix, lorsque Jésus dit « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère hein, ».
C'est ça.
Elle est valorisée par son rôle de mère et de femme. Alors, cette réponse...
Oui, qui littéralement, hein, « Femme, que me veux-tu », texte grec, c'est « Quoi entre moi et toi ».
Voilà. C'est souvent, beaucoup trop souvent lu sous l'angle psychologique, là. Voilà, Jésus devient un adulte, prend ses distances, il prend ses décisions tout seul, elle n'a pas à s'en mêler. Mais on est un peu à côté, là. D'abord, les évangiles, ça s'intéresse pas à la psychologie tellement. Bon, quoi entre moi et toi, comme vous l'avez dit, c'est une formule qu'on trouve ailleurs, dans les évangiles et dans l'Ancien Testament. Pas très fréquente, mais ça marque toujours une réelle distance, hein. Ça dit, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne réfère pas aux mêmes choses. Est-ce que Jésus prendrait ses distances sur la signification du manque que Marie signale? Est-ce qu'il donne un autre sens à ce vin qui manque? Ou, au lieu de se demander si Marie a de la peine, est-ce qu'on pourrait se demander, quand nous on l'entend dire, ils n'ont plus de vin, on pense peut-être pas au bon vin, finalement.
De quel vin tu parles?
Et ce serait une manière pour Jean de nous dire à quel vin tu penses, toi, lecteur, là? Est-ce que tu penses au vin de la fête de Cana, là, puis Jésus devient une sorte de magicien de service pour dépanner une noce en risque de mal tourner, vous voyez? Ou est-ce qu'on pense autrement?
C'est ça. De quel vin s'agit-il et aussi de quel manque s'agit-il?
Oui, voilà. Et si on parle du vin... En fonction du thème de l'Alliance, ben on se retrouve évidemment avec l'image du vin messianique, puisque assez souvent, quand les prophètes parlent de l'Alliance enfin accomplie, ils ont des images nombreuses, dont des images de vin, parce que c'est des images de fête.
Et vous en proposez, entre autres, Joël, au chapitre 4e, « Ce jour-là, les montagnes dégoutteront de vin nouveau ». Puis Isaïe, chapitre 25, « Le Seigneur donnera sur cette montagne un festin pour tous les peuples, festin de bonne viande et de vin décanté. » Seulement deux exemples, mais on pourrait aller en chercher d'autres.
Il y en a d'autres. Ouais. Et c'est clair que ça évoque la fête de l'humanité rassemblée par Dieu et enfin réconciliée avec Dieu. C'est pas juste dans notre culture que le vin est l'image de rassemblement festif. Hein? Jésus va dire à Marie, après avoir dit cette phrase, « Quoi entre toi et moi? » »« Mon heure n'est pas encore venue, donc c'est l'heure de la Pâque, puisque chez Jean, l'heure, c'est toujours l'heure de la Pâque. » C'est un peu, comme s'il disait, l'heure du vrai vin, l'heure du seul vin qui compte n'est pas encore venue.
Okay. L'heure, ça revient souvent dans l'évangile de Jean. Pour parler de sa mort et sa résurrection.
Oui, c'est toujours ensemble. Okay, quand je dis la Pâque de Jésus, c'est vraiment la mort et la résurrection.
Donc, mon heure n'est pas venue. Autrement dit, je suis pas rendu à la Pâque.
Voilà. Effectivement.
Je suis pas rendu à la mort-résurrection.
C'est ça. Okay. Et ça va revenir assez souvent dans ces termes-là, dans le livre, jusqu'au chapitre 12, où on aura au verset 23, « Elle est venue l'heure. » Et c'est quelle heure? Ben, c'est l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. La glorification, c'est la croix, la mort, la résurrection. C'est un peu comme si, finalement, Jésus va donner le jour de Cana un vin qui est signe annonçant l'autre vin. C'est le commencement des signes
c'est
à Cana.
C'est le commencement des signes, oui.
Voilà,
oui,
et
oui,
le
oui.
vin de la véritable nouvelle alliance est signifié déjà à Cana, mais il sera donné véritablement à Pâques.
Maintenant, la réaction de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira.
Ça aussi, faites tout ce qu'il vous dira, ça rappelle le Sinaï. Après que Moïse a eu donné au peuple les 10 commandements, vous savez, puis plusieurs autres lois, La réponse du peuple, elle est redite deux fois dans le chapitre 24 du livre de l'Exode. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. En fait, tout ce qu'il vous dira, c'est un peu comme si Marie appelait les serviteurs à devenir la communauté de l'Alliance, hein, qui va mettre, comme le peuple au Sinaï, mettre sa confiance dans la parole de Dieu. Sauf que, faites tout ce qu'il vous dira, c'est Jésus. Alors, c'est la parole de Dieu qui a pris chair en Jésus. Hein. Pensez au beau prologue de Jean. Il est le Verbe, la parole faite chair. Marie appelle finalement à mettre en pratique ses paroles qui sont le chemin de vie dans la Nouvelle Alliance. Hein. Et c'est ainsi, si je peux me permettre de revenir à la croix une seconde, qu'elle est peut-être mère de l'Église. Invitée à être la mère du disciple bien-aimé, elle est celle qui interpelle la communauté croyante à faire tout ce qui est dans les paroles de Jésus.
Et maintenant, les cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs, de l'ordre de 100 litres.
C'est énorme. C'est énorme. Hein? Jean a pris la peine. Si on voulait avoir là vraiment une lecture juste pratico-pratique, on n'a pas besoin de 100 litres 6 fois. Hein, vous voyez, on revoit tout de suite l'image des prophètes du vin messianique. Il y en a assez pour que ça coule des montagnes et que les collines ruissellent de vin. Donc, les cuves pour les ablutions rituelles, ça renvoie aussi directement à l'alliance conclue au Sinaï, hein. Les ablutions rituelles, nous, on trouve ça un peu bizarre, mais je rappelle que ça exprime le sens profond du sacré en Israël, c'est-à-dire la conviction que Dieu étant le Dieu unique, il est tout autre. Hein, c'est l'altérité radicale de Dieu et on se purifie pour s'approcher de lui. C'est sûr que c'est ça que ça évoque. C'est pas de l'eau dans des jarres de vin vide que Jésus prend, mais de l'eau pour les ablutions rituelles. Je signale aussi en passant, Claude, c'est intéressant de savoir que dans la tradition juive, l'eau et le vin sont des symboles de la Torah. La Torah étant la loi donnée au Sinaï, Torah est un meilleur mot que le mot loi, parce que la Torah répond à un besoin vital, comme l'eau, on en a absolument besoin pour vivre. Et comme le vin, la Torah réjouit le peuple. Des gens connaissent probablement le psaume 19, hein, « Tes lois sont droites, elles réjouissent le cœur ». C'est intéressant que Jésus ne parte pas à partir de l'eau ordinaire, mais de cette eau qui renvoie à l'alliance du Sinaï pour donner un autre vin qui va être le vin des temps messianiques.
Voilà, donc c'est cette eau qui devient vin.
Oui, c'est ça. Il a fait remplir à Rabar hein, les cuves. Je signale en passant que le récit ne précise pas qu'elles étaient vides, seulement elles ne sont pas pleines. Elles sont, je dirais, incomplètes. Et je dis ça parce que la précision 6 jarres ou 6 cuves suggère aussi une incomplétude. La perfection, la plénitude, c'est 7 et donc il en manque une. Alors, Jésus, vous voyez, il part pas de rien. Si je reviens à la symbolique de l'alliance entre Dieu et l'humanité, je dirais, on a déjà nos 6 cuves dans lesquelles il y a déjà ce qu'il faut pour l'alliance avec Dieu. Mais il manque ce que Jésus apporte d'unique dans la perspective chrétienne. Hein. Un peu comme si Jean nous disait que par toute son intervention, toute sa vie, son témoignage et sa Pâque, Jésus fait en sorte que l'alliance soit remplie, soit accomplie. Jésus vient remplir ce qu'il manque dans l'humanité pour vivre complètement la nouvelle alliance avec Dieu. Alors, ça voudrait dire, dans la symbolique chrétienne, au fond, le vin de la Nouvelle Alliance, le vin des noces de l'agneau, le vin de la communion entre Dieu et l'humanité. Et j'attire votre attention sur le fait que dans notre liturgie de ce dimanche, l'Alléluia, juste avant l'Évangile, nous donne exactement cette clé de lecture. Soyons dans la joie pour l'Alliance Nouvelle. « Heureux les invités aux noces de l'agneau. »
Ah ben, c'est très clair.
Le lien a été très bien clair. Fait ici. Oui.
Alors donc, l'eau est devenue vin. Hein?
Oui, le maître du repas...
C'est le verbe devenir. Oui. Ils n'ont pas changé. Hein. Changer en vin, c'est un autre verbe grec.
Oui, c'est ça. C'est vraiment le maître du repas goûta l'eau devenue vin. On n'est pas dans de la magie, hein. C'est pas le genre des miracles de Jésus, de toute façon, là. Je dis pas que l'eau n'est pas devenue vin, là. Mais l'accent est pas là. Il y a une continuité entre ce qu'était l'eau et le vin que boit le maître du repas.
Autrement dit, là, l'eau qui était une expression de la Torah, eh bien voilà que cette Torah fait un pas de plus en avant. Là. Il y a une transformation.
Elle atteint une autre plénitude. Qui la déborde, on pourrait dire. C'est intéressant, Jésus fait se déborder la première alliance en une nouvelle alliance. Hein. Il l'amène à sa perfection. Et bon, là encore, si on l'applique à nous, il nous amène à une plénitude de relation à Dieu à partir de ce qui est déjà en nous. C'est le lecteur chrétien qui est concerné par cette eau devenue vin. Un saut vers une plénitude.
Vers une plénitude. Et le maître du repas ne savait pas d'où venait ce vin.
C'est une manière chez Jean de suggérer que ce vin vient de Dieu. C'est assez fréquent chez Jean. Quand des personnes ne savent pas d'où ça vient, c'est sa manière de dire « ça vient de Dieu ». Pensez à Nicodème, c'est la plus connue. L'esprit, c'est comme le vent, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Un autre exemple que je trouve intéressant pour nous, c'est au chapitre 9, le verset 29, c'est l'aveugle né. Et les pharisiens, qui ne sont pas des aveugles et qui sont certains de bien voir les choses, disent « Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-là, il désigne Jésus, nous ne savons pas d'où il vient. » Ben justement, ils savent pas d'où il vient, alors qu'ils devraient savoir d'où il vient. C'est ce que l'ex-aveugle va leur répondre, hein? C'est sûrement un homme de Dieu. Mais ils sont aveugles, en fait, eux. Ils ne veulent pas savoir. Ces personnages-là, chez Jean, sont toujours mis en vis-à-vis avec le lecteur chrétien. Hein. Quand on les lit, on doit se dire « moi, est-ce que je le sais ?» Ou alors, on prend conscience « moi, je le sais d'où il vient. » Parce que j'ai déjà du chemin de fait dans ma foi et j'accueille le fait que Jésus vient de Dieu. Alors que lui le sait pas. Donc, c'est une manière pour Jean de faire fonctionner le lecteur dans son cheminement spirituel. D'ailleurs, il ajoute, les serviteurs le savaient.
Et c'est moi, un détail qui a toute son importance.
Ben oui, parce
lui
que...
Lui le sait pas, mais les serviteurs, eux, le savaient.
C'est parfaitement inutile de nous dire ça s'il veut pas attirer notre attention là-dessus. On le sait déjà que les serviteurs le savaient.
Ben oui.
Hein? C'est eux qui ont servi l'eau et elle est devenue du vin. Pourquoi est-ce que Jean souligne, sinon justement... Parce que ses serviteurs représentent le lecteur dont je viens de dire, il est censé savoir, lui aussi, le lecteur chrétien. Hein. Si on regarde qu'est-ce qui concerne les serviteurs dans le récit, outre ce « il le savait », c'est la parole de Marie, « faites tout ce qu'il vous dira ». À l'invitation de Marie, ils ont mis en pratique la parole de Jésus. Ça me fait penser, encore là, on est vraiment dans les thèmes de Jean, au chapitre 14, dans le long discours d'adieu, « Celui qui garde ma parole, mon Père l'aimera, nous ferons notre demeure en lui. » Donc, vous voyez, les serviteurs pourraient très bien être figure de ce que les disciples sont appelés à faire et à être pour vivre dans la communion avec Dieu. C'est d'autant plus intéressant que les disciples sont dans la conclusion du récit. Ses disciples crurent en lui. Les disciples étaient au début. Jésus fut invité à la noce avec ses disciples. Et entre les deux, le récit ne les mentionne pas. Mais les serviteurs tiennent le rôle d'illustration de ce que fait véritablement un disciple de Jésus. Hein.
Et nous arrivons donc à la conclusion du récit. Une conclusion donc en trois affirmations. Pouvez-vous nous les donner, ces...
Oui, et au fond, ça nous ramène au début, puisque j'ai commencé avec cette conclusion, trois affirmations fortes. Tel fut le commencement des signes.
OK. Mm-hmm.
Et donc, les signes, Jean nous dit que ça désigne autre chose, que nous devons voir autre chose. Et qu'est-ce qu'on a à voir comme lecteur? Que Jésus manifesta sa gloire. Tu manifestes pas ta gloire en faisant un tour de magie avec de l'eau et du vin. Hein. Manifester la gloire, c'est manifester son rôle de révélateur du Dieu qui fait alliance avec nous.
Mm-hmm.
Et ses disciples crurent en lui. Non pas, je pense, on comprend bien maintenant, croire que Jésus est capable de changer de l'eau en vin, c'est pas de ça du tout qu'il s'agit. Mais croire que Jésus a le pouvoir de nous faire devenir partenaire de Dieu en plénitude, dans l'alliance avec lui. Donc, les disciples, figurés par les serviteurs, savent, le lecteur averti que c'est un signe, sait que ce Jésus qui est mis en scène dans le récit de Cana, il vient accomplir cette alliance entre l'humanité et Dieu.
Et Dieu, voilà. Et ça rejoint la finale de l'Évangile de Jean au chapitre 20. Jésus a fait d'autres signes. Ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que vous ayez la vie en son nom. Et c'est ainsi que se termine l'Évangile de Jean. Francine Robert est professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains. C'est Claude Julien qui vous parle et qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.